C'est un peu difficile d'après des introductions si positives de Christian et Edmé de parler à vous, mais je vais l'essayer. Et en plus, c'est pas Bruniquel, c'est pas ma faute, mais on a eu le désir que je parlerai d'une chose plus général, l'évolution culturelle de l'humanité depuis les origines jusqu'au début de l'agriculture. Une période très longue. Et à cause de langue, j'étais obligé de me faire un manuscrit. Je m'excuse que je vais le lire. L'homme provient de la famille des anthropoïdes, des hominidés. Les chimpanzés, Pantroglottites, et les bonobos, Paniscus, sont nos cousins et ont presque le même génome. C'est 95%. L'ancêtre commun de nous et chimpanzés a vécu dans la savane africaine il y a 10 à 6 millions d'années. Du point de vue archéologique, l'homme est une créature qui fabrique ses propres moyens d'action, ce qui facilite sa survie. Les outils et les armes sont d'importants moyens d'action dont l'invention et le perfectionnement ont mené à un accroissement de la population et à l'agrandissement de l'espace vital. C'est ainsi que sont considérés les développements culturels et les résultats des innovations techniques. Je crois que c'est très important. Le développement culturel comme résultat des innovations techniques. En même temps, bien sûr, l'environnement en tant qu'arrière-plan du scénario joue un rôle déterminant au début des périodes considérées ici. Le paléolithique, c'est donc le temps des chasseurs-cueilleurs, est le plus éloigné, le plus long, et commence avant 2 500 000 d'années. Cette époque où les hommes étaient chasseurs et en collectaient des fruits, cette époque se termine dans certaines régions vers 8000 avant notre ère, mais aux limites de notre zone culturelle, elle perdure jusqu' ou presque jusqu'à nos jours. Il ne fait aucun doute que l'homme s'est formé dans son corps et son comportement durant les 2 500 000 d'années de son histoire de chasseur et que le temps peut passer depuis au maximum 10 000 d'années a été beaucoup trop courte pour le changer de façon décisive. Je voudrais vous exposer quelques tournements de notre histoire et ainsi faire ressortir que les idées formulées par Charles Darwin sont valables non seulement pour l'évolution biologique, mais aussi pour le développement culturel.
Le premier outil en pierre date de plus que 2 500 000 d'années. Les premiers outils en pierre sont des éclats. Ce sont des éclats qui ont été enlevés avec une percuteur dure d'un bloc de matière première brute, généralement des galets de rivière. Oui, vous avez là une pierre que j'ai utilisée comme percuteur et là une silex. Et d'après le coup direct, le coup dur, un nucléus avec des négatifs et des éclats. Les roches siliceuses acides, quartz, quartzite, silex, se fendent à la manière du verre et les éclats ont des bordes coupants comme un coteau. Et là, c'est extrêmement important. Donc, ce sont des éclats, les deux faces, et là, c'est le bord de celui, le même deux faces, la surface dorsale et ventrale est là. Et donc, on a fabriqué des couteaux. Avec ces éclats, des morceaux de viande pouvaient être détachés du gros animal. Et c'est seulement dans ces façons que les gros animaux sont devenus de la nourriture pour l'homme. S'il n'y en a pas de couteau, s'il y en a un cheval ou éléphant mort, on ne peut rien faire. Mais avec ces éclats, on peut découper. Il y a un débat sur le fait que les animaux ont été tués ou si tout d'abord la viande de charognes, donc des animaux déjà morts, est mangée. Les hommes n'avaient certainement aucune possibilité de capturer des antilopes ou des zèbres. Il en était pour leur frais en raison de la distance de fuite de ces animaux grégaires. Et l'homme n'était pas capable de les capturer. Mais il en va autrement des méga herbivores, éléphants, rhinocéros, hippopotames. Il est possible que leur intrépidité leur ait été fatale. Il est surprenant en tout cas que les plus anciennes preuves de l'exploitation concernant le corps d'animaux montrent les éléphants et les hippopotames. On a découvert sur un site dans les gorges d'Olduvai en Afrique d'Est le squelette d'un jeune éléphant. Et à Kobifora, sur le lac Rodolphe ou lac Turkana, les squelettes d'un hippopotame. Tout autour desquels, dans les deux cas, j'ai trouvé des éclats produits par l'homme. Près du squelette d'éléphant de Barogali à Djibouti, on a trouvé plus que 500 éclats. À Nadunga, au rive ouest du lac Turkana, les ossements d'éléphants étaient associés avec des éclats et aussi des nucléus, c'est-à-dire les pièces de lesquelles on a fabriqué des éclats. Ici, l'homo habilis a fabriqué des outils pour découper l'éléphant sur place. Il semble donc sûr que Homo habilis a découpé le corps des méga herbivores, pas de zèbres, pas de antilopes, pas de gazelles, et pas exclu qu'il a les aussi tué. Vers 1,8 million d'années, Homo ergaster, qui se développe d'Homo habilis, apparaît en Afrique. La découverte la plus importante vient de Nario Kotome, à l'ouest du lac Turkana. Il s'agit d'un squelette presque complet d'un garçon de 12 ou 13 ans. Le garçon a eu une taille de 1,68 m. Adulte, il aurait eu une taille de 1,85 m. Si une telle taille n'était pas une exception, Homo ergaster était bien plus grand que Homo habilis, mais son cerveau reste avec un volume de 600 à 800 cm3, petit comme chez l'Homo habilis. Nario Kotome, sur la fouille là, on a seulement le squelette, on n'a pas trouvé l'industrie lithique. Mais d'autres sites de cette époque ont donné des outils en pierre, premièrement des éclats. Le résultat de cette innovation, l'éclat en guise de couteau, a été un accroissement de la population qui a mené aussi à une augmentation des territoires habités. Nous connaissons aussi des sites du sud de l'Eurasie remontant en environ 1,8 million à 1,5 million d'années. L'endroit le plus important est Dmanisi en Géorgie. Edmé a déjà parlé de mes travaux là. Une dizaine d'années de ma vie, c'est le gisement Dmanisi, la Méditerranée, la mer Noire, la mer Caspien, et les deux chaînes de Caucase, là, en Géorgie. Sur le bord d'un lac, accumulé dernière une coulée de lave, ont été trouvés des ossements animaux et humains, ainsi que des outils de pierre, surtout des éclats datant de 1,8 million d'années. Et c'est la limite entre l'Arménie en bas et la Géorgie. Et là, orienté nord-sud, et pas comme les chaînes de Caucase en général est-ouest, sont des chaînes volcaniques. Et c'est les chaînes de Djawakheti. Et là, une éruption volcanique a eu place il y a 1,800,000 des années. Et le col de la Have a utilisé la vallée de Machavera. Et là, rouge, c'est le col de la Have. Et là, le col de la Have a bloqué la vallée d'une tributaire de Machavera, de vallée de Pinesauri, et tout ça agit comme une barrage et un lac se formait. Et c'est la situation aujourd'hui. Demain ici, c'est très fameux pour son histoire médiévale du nucléus de la Géorgie d'aujourd'hui. Et c'est pendant ces fouilles médiévales qu'on a trouvé dans le fosse creusé par les gens médiévaux à la base des os d'éléphants et rhinocéros, donc inhabituel pour les médiévaux aussi en Géorgie. Et aujourd'hui, le Pinesauri, cet fleuve là-bas, a érodé le col de lave à une profondeur de 90 mètres. Mais au temple du site de Dmanisi, l'eau était à la surface. Le col de lave a fait un barrage et l'eau était obligée de fleurir à la surface de cette basalte. Et c'est là l'eau a lentement commencer de creuser un petit vallon. Et à ce moment, les animaux sont venus pour boire à cette petit à cette lac. C'est le cul de lave. Et là, ce sont des fosses médiévales qui ont en partie attaché les trouvailles du paléolithique ancien. C'est dans les sédiments des inondations de l'eau que nous avons trouvé des ossements, surtout des animaux, éléphants, rhinocéros, chevaux, apparentés aux zèbres, cerfs, antilopes, girafes, bœufs et aussi l'autruche. Et tout ça a vivé dans un paysage de prairies, de climat chaud, et ils sont venus de boire au lac. Les carnivores, parmi lesquels deux formes de félins à dents de sabre, Meganterion et Homotherium crenatidens, et la terrible grande hyène Pachycocruta. Ces félins de dents de sabre et les hyènes venaient là pour chasser les herbivores. Les hommes étaient là aussi pour la chasse ou pour l'exploitation des cadavres. C'est ainsi que s'explique le nombre d'os d'herbivores et les outils en pierre que nous avons découverts. Connaissez déjà, ce sont presque seulement des éclats. Mais les os des carnivores et les os d'humains trouvés dans les mêmes conditions de gisements reste inexpliqué. Les crânes et d'autres os humains appartiennent à des personnes jeunes et vigoureuses. Nous avons trouvé 5 crânes, 4 mandibules et les éléments, les ossements du squelette postcrânien. La mandibule trouvée en 1991, dans les premières semaines de notre fouille, fait part du crâne d'une jeune femme de 18 à 20 ans, trouvée plus tard. Aussi le crâne d'une fillette de 13 ou 14 ans, trouvée en 2001, est associé à une mandibule trouvée non loin du crâne. En plus, il y a un crâne d'un homme âgé 25 à 30 ans et la mandibule d'un homme avec un âge de plus de 40 ans. Nous avons trouvé ces restes humains et aussi le squelette d'un jeune méganthérion, un félin dans sabre, sur une seulement petite surface de quelques mètres carrés. Je crois que ces trouvailles sont les traces d'un combat entre les hommes et les prédateurs, surtout Meganthérion, de lesquels nous avons trouvé un squelette aussi presque complet. Et dans ce combat, dans lequel un groupe humain, peut-être une famille, était écrasé. Si vous voulez, un premier événement historique connu. À cette époque, les hommes vivaient dans un paysage steppique de climat chaud, en compagnie d'associations animales, d'herbivores et de carnivores. Ils faisaient partie du biotope. Et si des ossements de Mammuthus meridionalis, un grand éléphant, d'Icerorhinus etruscus, c'est un rhinocéros, Equus sternonis, c'est un cheval similaire à zèbre, Meganthérion, vous connaissez déjà, et autres, si on trouve des ossements de ces animaux quelque part, nous pouvons en déduire que l'homme aussi vivait là. C'est comme aujourd'hui, notre forêt, quand on a des cerfs et des chevreuils, on attend aussi les sangliers. Cet été a ainsi de 2 500 000 d'années à 1 million, donc plus de la moitié de notre histoire. Je veux dire, cette vie de l'homme comme une partie des biotopes naturels restait plus 1 500 000 d'années, et ça c'est plus que la moitié de notre histoire. Et j'ai intitulé ce chapitre Les éclats, les premiers outils, les couteaux. Deuxième événement très important, c'est le feu. Au alentour de 1 million d'années, on trouve le premier indice sur la maîtrise du feu. Dans une grotte en, d'Afrique du Sud, ont été trouvés des os d'animaux brûlés. Et sur un site d'Afrique d'Est, des morceaux d'argile ressemblant à de la brique. Des petits morceaux d'os calciné blanc que nous avons trouvés dans nos fouilles à Bogatiri, dans le péninsule de Taman, qui sépare les mers noires de la mer d'Azov. Là, c'est le crime maintenant prédiscuté. Et quand nous étions là, c'était la limite entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, c'est changé. Et là, la mer d'Azov, c'est, si vous voulez, le delta du Don et la mer Noire. Et là, nous avons travaillé. Et ces ossements calcinés blancs sont peut-être aussi des indices d'utilisation du feu. J'ai pris cette occasion pour une nostalgie personnelle de parler de mes fouilles avec beaucoup de réminiscences. Ce sont des ossements et en plus on a des éclats rarement retouché. Et l'âge de ce site Bogatiri est environ 1 million d'années. Le mot Bogatiri, ça veut dire géante. Et ça vient du fait que les fermiers ont trouvé sur leur champ de grands ossements paléolithiques inférieurs. Oui, mon équipe russe et allemande. On peut difficilement surestimer l'importance du feu dans notre histoire. Le feu, premièrement, était une protection efficace contre les grands félins carnivores qui jusque-là était le plus dangereux ennemi de notre espèce. Regardez devant ici. Le feu chauffe et a été la condition pour l'occupation des zones climatiques froides. Il n'était pas possible auparavant pour l'homme de quitter son habitat de laquelle j'ai parlé, dans les steppes de climat chaud, et même de vivre dans les zones climatiques tempérées du nord des hautes montagnes de l'Eurasie. Le plus ancien indice d'un séjour de l'homme au nord des Alpes et du Caucase et du Pyrénées provient de cette époque. L'importance sociale du feu était primordiale. On s'assiette près du feu et le foyer devient le point central du groupe. L'homme seul maîtrise le feu. La possession du feu a été la frontière définitive entre l'homme et l'animal. Ceci a conduit aussi à une autre perception de l'homme par lui-même. Si on est, par exemple, assis près du feu et que dehors un lion hurle, alors on peut avoir dit que, ou même penser, c'est un animal. Donc, moi, je suis quelque chose d'autre. Le prochain chapitre concerne la lance. On ne sait pas exactement depuis quand il y a des armes. Il s'agit avant tout des lances en bois. Bien sûr, des éclats dans lesquels j'ai parlé longtemps, ce sont des couteaux, pas des armes. Les premières armes, d'après tout, les lances en bois. Les plus anciennes découvertes proviennent d'environ 400 000 ans. Cependant, il est très vraisemblable qu'il y ait eu de telles lances plus tôt, peut-être depuis la maîtrise du feu. Les lances en bois fabriquées avec beaucoup de travail, soigneusement lissées et appointées, étaient des armes pour frapper et lancer. Déjà en 1911, on a trouvé la partie terminale d'une lance ou javelot en ébène à Clacton-on-Sea. Au bord anglais de la Manche. Cette trouvaille de Clacton-on-Sea date environ 400 000 ans. À Schöningen, près de Brunswick, sur la rive d'un ancien lac, ont été trouvés 8 javelots en bois de sapin et de pin. 7 en sapin et 1 à pin. Longue de 1,80 m à 2,50 m, qui servait à la chasse au cheval vers 300 000. On a choisi des arbres jeunes. La pointe de javelot était travaillée dans la partie basale du tronc et placée dans le bois massif à côté du canal de moelle. L'écorce et le rameau de petit tronc étaient soigneusement enlevés. Le centre de gravité de ces javelots se place dans les tiers supérieurs. Les qualités balistiques sont excellentes. Lanceurs d'aujourd'hui ont jeté les répliques de javelots de Schöningen à une distance de 77 mètres. Sûrement, la distance était moins importante que la précision, qui est très bien vers 15 mètres et vers 25 mètres encore bien. Ces armes soulignent la connaissance extraordinaire du travail de bois végétal. Nous connaissons un autre exemple plus jeune d'une telle lance à Leeringen dans les Landes de Lunebourg. C'est une lance de longueur de 2,50 m, aussi en ébène comme de Clacton-on-Sea. Et l'âge de cette lance de Leeringen, c'est 125 000 ans, donc beaucoup plus jeune. Et cette lance était utilisée pour chasser l'éléphant sur la rive d'un lac et qui se conservait parce que le lourd animal est tombé sur cette lance et qu'elle a été enfoncée dans le sous-sol marécageux. Parfois, les lances en bois avaient des pointes en pierre. Particulièrement effectifs étaient les pointes de l'Évalois triangulaire avec leur bord très très tranchante. La forme de ces pointes était déjà préparée sur le nucléus avec une technique sophistiquée. Une telle pointe a pénétré dans les vertèbres cervicales d'une âne sauvage, d'où est-elle en série. Là, les ossements avec un fragment d'une telle pointe. Et en haut, un peu difficile maintenant d'expliquer la préparation des nucléus avec quelques coups seulement, 1, 2, 3, pour avoir le futur point au sommet du nucléus et un peu le fabriquer avec un coup en plus. C'est une pointe terriblement dangereuse et c'est là qu'on trouve dans le temple des Néandertaliens comme armature de lance en bois. Les lances en bois ont été pendant plusieurs centaines de milliers d'années l'arme la plus importante, avec laquelle tous les animaux vivants pouvaient être tués à cette époque. Pour chasser avec une arme aussi simple, les mis en profit de la topographie du terrain était particulièrement important et décisif pour le succès de la chasse. Quelques exemples. À la Borde, dans le Lot, les aurochs étaient traqués vers des puits du plateau calcaire où ils font une chute mortelle. Ou à Moran, en Haute-Garonne, les bisons étaient chassés vers une endroite sans issue entre le fleuve, la Garonne et la falaise. Moi-même, j'ai travaillé d'un tel lieu de chasse à Ilskaya, dans le passage de la plaine de Kouban dans la région montagneuse du Caucase. Là aussi, peu avant le débouche en forme d'entonnoir de la vallée des îles, dans le plein de Kouban, les montagnes se sont approchées et laissé seulement un passage étroit qui on peut facilement fermer, pas de feu, même pas des enfants criant. Et là, dans ce piège naturel, l'homme de politique moyen, donc les Néandertaliens, ont chassé pour une période très longtemps des bisons. Cependant, le succès de la chasse avec de telles armes de lance avait des limites. Même si on prend en considération l'économie de collecte, certainement important, le groupe humain pouvait à peine agrandir et rester stable pendant une longue période de temps. Les blessures sur les os dans les tombes néandertaliennes dans les grottes de Chanida en Irak pourrait attirer l'attention sur le fait que de telles lances auraient pu être utilisées dans le combat. En outre, il est tout à fait imaginable que les lances étaient utilisées non seulement comme des armes, mais aussi, par exemple, pour creuser à la recherche des racines, et comme aide pour l'escalade et la l'optimisme et la palabre et pouvait servir à beaucoup d'autres choses. La lance était à cette époque un attribut indispensable pour l'homme. Prochain chapitre concerne le propulseur. L'invention du propulseur a d'abord augmenté le succès de la chasse et a permis un accroissement de la population. Le propulseur est une planchette ou un bâton avec un crochet au bout, devant lequel le fût du javelot peut être posé, auquel l'effet de levier du propulseur donne une énorme force de pénétration. Et c'est le propulseur en bois normalement, et il y a un crochet là. C'est le lance en bois armé d'un harpon, mais le propulseur, c'est ça, et le crochet, c'est important. Et dans une certaine période, dans le Magdalénien, on a fabriqué ces crochets en bois de renne et se sont donc conservés là. Ou cette mammouth un peu curieux parce qu'il faut respecter la forme de bois de renne avec un premier crochet à la place du queue de l'animal, c'est cassé. Et après un deuxième crochet. C'est donc un argument que cette pièce était vraiment utilisée. Le plus ancien indice de l'utilisation du propulseur remonte à environ 30 000 ans avant notre ère. Vous voyez, nous, on courit par le millier. Nous observons également à cette époque une manière de s'établir. Les établissements en forme de village s'étendent sur une surface de terrain orientée au sud, au-dessus d'une grande vallée. Je vous donne un exemple. Oh, je m'excuse, ça fait illustration de fonctionnement de propulseur. Et le crochet, là. Donc, l'existence de cette arme a changé la façon de vivre. Les groupes humains vivent en hiver dans un type de village avec des constructions qui se répètent. Ce sont une rive se formée par des montagnes et l'autre se reste une plaine. C'est un exemple de Kostienki et se le donne. De l'autre côté de la vallée s'étend une large plaine qui pouvait être surveillée depuis le campement. À de tels endroits qui peuvent être cherchés dans le passage encore maintenant à cause de la topographie caractéristique, de grands groupes humains séjournaient pendant une longue période, plusieurs mois par exemple, le temps d'un hiver. Le matériel mis au jour est varié et se compose d'objets en pierre et en os, mais aussi de parures et d'art. Là avaient lieu de nombreuses activités, même des danses et des rites importants pour tout le groupe. C'est un village, mais le lieu de chasse se trouvait en revanche sur le passage de troupeaux d'animaux. Nous savons que la chasse aux rennes avait lieu toujours en automne, parce qu'ils sont assez grasses, par exemple à un passage de la crème de Moraine à Schussenquelle, sur le lac de Fédersee en allemand du sud, ou sur un pont de terre entre l'ancienne série de lacs dans le vallée d'Arensburg. On essaie de chasser les animaux quand ils traversent une fleuve, par exemple. Et l'exemple le plus connu, c'est pensevant à la Seine près de Montereau. Mais c'est pas Brunical, mais Fontalès, près de Saint-Antonin, vous avez une observation similaire, un lieu de chasse de rennes en automne. Le site le plus célèbre pour la chasse aux chevaux est la vallée située au pied de la falaise de Solutré, près de Mâcon, par laquelle les chevaux passaient lors de leur migration annuelle entre la large cuvette de la Saône et la région escarpée de Mâcon. Nous connaissons aussi des sites de chasse au bison, pas en Europe d'Ouest et pas en Europe centrale, mais à Ambrosievka, en Ukraine. Là, le bison était, comme en Amérique du Nord, un gibier très cherché, nord de mer Noire. Dans l'état épais des os, 1000 bisons ont été trouvés. De grandioses cultures du paléolithique supérieur, du paléolithique récent, reposent sur cette base économique, c'est-à-dire la grande chasse avec le propulseur. La nette augmentation de découvertes plaide pour le développement de la population. Les peintures de grottes et les innombrables objets d'art mobilier appartiennent au témoignage largement connu de cette époque. Elle est importante pour moi de faire comprendre que cet art de l'époque glaciaire reflète un monde imaginaire et, plus important, qu'il n'a pu naître que sur une telle base économique par l'utilisation de propulsions. L'invention du propulseur a permis non seulement une nette extension de la population, mais a mené à une grande expansion de l'homme. Au paléolithique supérieur, le monde entier a été occupé. L'Afrique, l'Eurasie jusqu'aux côtes de mer nordique, l'Australie, l'Amérique, juste à la Terre du Feu. Seules quelques îles, Islande, l'île du Pacifique, n'ont pas été atteintes. À la fin de politique récent, l'arc et la flèche succèdent aux propulseurs comme une amélioration complémentaire de l'armement. La flèche et l'arc sont plus précis et ont refoulé le propulseur à l'extérieur en Australie et chez les Esquimaux. Le propulseur ainsi que la flèche et l'arc étaient des inventions et non une sorte de réaction à un changement de rapport avec l'environnement. C'est une sottise d'admettre qu'à la fin de la dernière glaciation, l'expansion des forêts a conduit à l'utilisation de l'arc et de la flèche. En réalité, Homo erectus aurait bien aimé avoir déjà l'arc et la flèche, mais il n'a jamais fait cette invention. Et pensez aussi de l'importance des idées de Darwin. Les mutations sont des hasards, elles sont hasardeuses. Dernier chapitre, le peuple des moissons et l'éclosion du néolithique. Sur ce sujet, il n'est pas évident de donner un exemple pour conclure, comme j'ai nié l'influence souvent prépondérante de l'environnement. Autrement dit, maintenant, ces derniers chapitres sont dominés par l'influence de l'environnement. Le changement climatique, bien connu à la fin de la dernière glaciation, ont refoulé le steppe froid de l'Eurasie, les steppes de mammouth, au nord des hautes montagnes. Et ces changements climatiques ont conduit à l'extension de la forêt boréale. Donc, en Europe centrale, d'ouest, en général, en Europe, c'est une grande échelle, on trouve à la fin de glaciation de forêts boréales, dans lesquelles ne vivaient pas les mammouths, des troupeaux, des rennes, des chevaux, mais seulement les lions, le cerf et le roc, sanglier sûrement aussi. Alors que dans le steppe froid, avant, poussaient beaucoup des herbes, certains apparentés aux céréales sauvages, donc les grains sont tout à fait comestibles et qui peuvent aussi être récoltés. Au contraire de ça avant, maintenant, dans un climat humide froid, dans lequel il y avait avant tout des forêts avec des bouleaux et des pins, mais pas des herbes de steppe. Les hommes en Europe, les hommes ici dans notre région, n'avaient là aucune chance de récolter des herbes sauvages et finalement de devenir les premiers paysans. En Mésopotamie et en Palestine, le changement climatique a mené à un paysage de steppe avec beaucoup de herbes, parmi lesquelles les céréales sauvages ou aussi des gazelles, comme ici les gazelles de Doms. Là-bas, en Mésopotamie et en Palestine, les moissonneurs deviennent prépondérants vers 12 000 avant notre ère. Dans le même temps, chez nous, en Europe, le groupe humain devenu plus petit parcourt les forêts humides de bouleau et de pain. La récolte de l'herbe sauvage est devenue une base économique acceptable et a mené à une nette augmentation de la population, aux villages et aux œuvres d'art comme miroir des idées plus complexes. Là-bas aussi, Mésopotamie, le pas entre la récolte et le sommeil a été franchi et s'est fait le début d'une forme d'économie fondamentalement différente qui a changé le monde plus fortement qu'aucune autre auparavant. Donc, comme résumé, j'ai présenté le développement culturel depuis le commencement jusqu'au début de l'agriculture en me fondant sur quelques exemples importants. Il doit être clair que les tournants fondamentaux dans le développement culturel ont été conditionnés par les innovations. Les premiers outils taillés, les éclats, la maîtrise du feu, la lance, les propulseurs. Le dernier exemple a accentué l'importance de l'environnement. Tous ces pas ont mené à un accroissement de la population et à un agrandissement de l'habitat, mais à partir de l'agriculture, c'est aussi arrivé un nouvel phénomène, le labour, le travail. Le nombre de populations réglait simultanément le nombre de ces invasions et par là le rythme de développement. J'ai mal lu cette phrase, je le répète. La grandeur, l'échelle de la population réglait le nombre des inventions possibles. Et ce nombre d'inventions, s'ils sont beaucoup, de développement, c'est plus vite. Plus d'hommes ont plus d'idées, qui sont plus rarement oubliées que dans une petite groupe. Cela explique le développement inimaginablement incroyable longue du début et la plus grande rapidité de développement dans les dernières, laissez-moi dire, 50 000 années. Cela se poursuit jusqu'à maintenant, comme nous le savons tous. Mais l'accroissement de la population est aussi devenu un grand danger, comme nous le aussi savons. Mon sujet n'était pas la philosophie, mais mon sujet était pourtant le chasseur cuillère de paléolithique et leur histoire. Merci à Edmé pour la traduction du texte allemand. Et merci à vous que vous avez fait attention. Je m'excuse pour les difficultés de langue française. Merci.